Depuis deux jours que j'ai commencé cette histoire des compositrices, je vous ai raconté la place des femmes dans la musique en Grèce et à Rome et dans les débuts de l'ère chrétienne. À ce moment-là de l'histoire, les femmes ont été priées de se taire. Les musiciennes étaient encore plus que les autres femmes, soumises à la domination masculine et à la misogynie ambiante. Si elles étaient professionnelles, leur métier était volontiers assimilé à celui de prostituée ou de courtisane, et la réprobation générale qui s'exerçait à leur encontre les empêchait en particulier de rentrer à l'église et de communier. Les femmes n'avaient pas accès à l'éducation, encore moins que les hommes. Quelques femmes néanmoins, nées dans des familles riches et ouvertes d'esprit, recevaient une éducation très complète. C'est le cas de Cassia. Cassia est une compositrice byzantine grecque, née à Constantinople au début du IXe siècle, dans une famille riche de l'entourage de la cour impériale. Elle a reçu une éducation très complète, y compris en littérature grecque classique, et on avait pensé la marier à l'empereur Théophilus. Au lieu de cela, elle est devenue abbesse dans un monastère, où elle a écrit de nombreuses œuvres liturgiques, certaines sans doute sur ses propres poèmes. Certaines de ses mélodies étaient si célèbres qu'on en parle dans les chroniques du temps. Je n'ai trouvé qu'un seul enregistrement, joué ici par le quatuor Chronos, dans un arrangement de Diane Toulatos, la grande spécialiste de Cassia et l'éditrice de ses œuvres. Cassia a donc composé au couvent. En effet, les couvents étaient des lieux de relative liberté pour les femmes. Là, elles n'étaient soumises ni à un père, ni à un frère, ni à un mari. Selon la richesse et l'importance de ces couvents, selon l'ordre monastique dont ils dépendaient, la musique y tenait une place plus ou moins grande. Au XIe et XIIe siècle, beaucoup de couvents étaient des lieux de culture importants. Leur activité majeure consistait à chanter la musique liturgique. 8 offices plus une messe par jour donnaient beaucoup à chanter, 2h30 par jour, et l'éducation des novices se concentrait sur l'apprentissage de la lecture et du chant. L'une des nonnes était la cantrix, chargée de diriger les chants, de choisir le répertoire, de le faire répéter, mais aussi de superviser les copies et les enluminures réalisées dans le scriptoria, puis de gérer la bibliothèque. Cette cantrix était bien placée pour composer des textes ou des musiques pour les services religieux. Il est probable que beaucoup de productions anonymes ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Et quoi qu'il en soit, de nombreux textes d'évêques ou de conciles ont tenté d'encadrer rigoureusement ce chant et de le limiter dans la mesure du possible, ce qui prouve bien son importance. « Hildegard von Bingen était la dernière des 14 enfants d'une famille de la noblesse rhénane. À l'âge de 5 ans, elle a commencé à avoir des visions. À 8 ans, ses parents l'ont promise à l'église et à 14 ans, en 1112, elle prononçait ses vœux. On l'enfermait alors dans une cellule avec Jutta von Spanheim, autre fille de famille noble, son aînée de 6 ans. C'est Jutta qui enseigne à Hildegard à lire le latin et lui apprend les strictes pratiques religieuses. Leur seule ouverture sur l'extérieur est une unique fenêtre, mais pourtant elles ne sont pas totalement isolées, puisque Jutta correspond avec un tas de personnes qui souhaitent avoir accès à ses prophéties et son enseignement spirituel. En outre, le moine Folmar, d'un monastère voisin, apporte à Hildegard les connaissances théologiques fondamentales et lui fait lire des sermons et des traités. Après la mort de Jutta en 1136, Hildegard devient la prieure et dirige le couvent sous la houlette d'un abbé. Le couvent attire beaucoup de filles de la noblesse locale et en 1150, alors qu'elles sont une vingtaine, Hildegard, soumise, dit-elle, à un commandement divin, établit son propre couvent à Rupertsberg, près de Bingen. À l'occasion de la dédicace du couvent, on a joué son drame liturgique « Ordo Virtutum ». Le thème du drame liturgique Ordo Virtutum de Hildegard von Bingen est le combat pour l'âme humaine, anima, entre 16 vertus personnifiées et le diable. Folmar, le secrétaire d'Hildegard, jouait probablement le rôle parlé du diable qui ne méritait pas d'être mis en musique. Hildegard a donc réuni des fonds et fait construire son nouveau monastère dont elle a assuré l'indépendance financière. En 1152, elle reçoit même la protection de l'empereur Frédéric Barberousse qui la nomme abbesse. Lorsque les moniales arrivent au nombre de 50, elle fait construire une autre maison à Eibingen pour recevoir encore une trentaine de recrues. Le rayonnement de la personnalité d'Hildegard a été immense, puisqu'elle a entretenu une correspondance suivie avec des papes, des empereurs, des personnages puissants, laïcs ou ecclésiastiques. Elle a eu un rôle important en politique et en diplomatie, à une époque de bouleversements immenses, sortant notamment du couvent pour 4 missions de prêche en Allemagne. Hildegarde a écrit de nombreux ouvrages dans toutes sortes de domaines. Des ouvrages de sciences naturelles et de médecine, des vies de saints, des récits de ses visions et une explanation de la règle de Saint-Benoît. Mais bien sûr, ce sont ses nombreuses œuvres musicales qui nous intéressent ici. 77 pièces notées en neumes allemands sont conservées sur ses propres textes et qui montrent son originalité, souvent dans un esprit contemplatif. Dans plusieurs écrits, Hildegarde insiste sur le fait qu'elle n'avait pas reçu d'instruction et qu'elle n'était qu'une intermédiaire entre Dieu et les hommes. Toute sa production, affirmait-elle, lui venait d'en haut. Dans la mesure où une femme ne pouvait en aucun cas accéder à la connaissance à son époque, elle était obligée de dénier son éducation humaine. Pour elle, la musique était une voie vers l'expérience mystique et la composition un moyen de rendre palpable Dieu et la beauté divine. Ce matin, dans Histoire 2, je vous ai fait écouter d'abord un hymne de Cassia par le quatuor Kronos, puis de Hildegarde von Bingen, O Dulcissime Amator par l'ensemble Sequentia, un extrait du Ordo Virtutum sous la direction de Stefan Morent, puis l'hymne Cum Vox Sanguinis et le répond Spiritui Sancto Honor par l'ensemble Organum.